Radio Prague, les informations.
Démantèlement d'un réseau de distribution d'anabolisants contrefaits. Le sénateur Jiří Čunek condamné à payer un dédommagement à son ancienne secrétaire. Le prix Nobel Claude Cohen-Tanucci donnera une conférence à Prague. La police a démantelé un réseau de trafiquants d'anabolisants et de médicaments contrefaits. Parmi les personnes figurant dans cette affaire, il y a 8 Tchèques et 3 Slovaques, dont la plupart sont d'anciens sportifs, des culturistes, des entraîneurs et des organisateurs de compétitions sportives. Le sénateur et ex-président du Parti chrétien-démocrate KDU-ČSL Jiří Čunek a été condamné à payer à son ancienne secrétaire Marcela Urbanova un dédommagement de 80 000 couronnes, quelque 3 200 euros, et doit lui présenter publiquement ses excuses. Marcela Urbanova avait demandé cependant un dédommagement de 10 millions de couronnes, se considérant lésée par les propos de Jiří Čunek à son sujet dans les médias. En 2007, une procédure a été ouverte contre Jiří Čunek, qui était soupçonné par la police d'avoir accepté un pot de vin de 50 000 couronnes. Marcela Urbanova était le témoin principal dans cette affaire. Au cas où un seul pilote de la société CSA, Lines Aériennes Tchèques, serait licencié, l'association tchèque des pilotes de transport lancera une action pour retarder les vols, une déclaration du chef de l'association Philippe Gaspard. Parmi les participants à la conférence sur les limites de la thermodynamique quantitative et mésoscopique qui a commencé à Prague, il y aura le chercheur français Claude Cohen-Tanucci, lauréat du prix Nobel de physique. Il donnera sous jeudi au Rudolfinum de Prague une conférence pour le public. Il expliquera au public pragois comment les chercheurs peuvent manipuler les atomes et examiner leur qualité à l'aide du laser. Des centaines de personnes ont déjà signé le livre de condoléances présenté à l'ambassade de Norvège à Prague. Les Pragois viennent pour manifester leur soutien et leur solidarité aux familles des victimes des attentats d'Oslo ayant coûté vendredi la vie à 76 personnes. L'archevêque de Prague et primat de l'église catholique tchèque Dominique Duka a adressé une lettre à l'ambassadeur de Norvège à Prague. Dominique Duka célébrera vendredi à 17h une messe à la cathédrale Saint-Guy au château de Prague pour les victimes des attentats d'Oslo. L'armée tchèque a décidé de vendre plus de 30 biens immeubles dont elle n'a plus besoin. Elle vend entre autres un hôtel au bord du barrage de Lipno, un aéroport près de la ville de Tábor en Bohême du Sud, un hôpital militaire dans la ville de Klatovy en Bohême de l'Ouest, une caserne, un champ de tir, etc. Le ministre tchèque de la Culture Jiří Besser a supprimé le statut du monument historique des caves gothiques situé près de la rue Národní à Prague et a renvoyé le dossier pour un nouvel examen aux fonctionnaires de son ministère. Une déclaration pour l'agence Četeka Devaticha du ministère de la Culture. Les caves gothiques de la rue Národní, découvertes par les archéologues en 2009, sont très bien conservées. Elles ont obtenu le statut de monument historique du ministère de la Culture au début de cette année. Elles se trouvent à l'endroit où doit être construit un grand centre commercial Kopacentrum. Météo, ce mardi fête de toutes les Anna, selon le calendrier tchèque, le ciel reste partiellement couvert et il pleut par endroits. Les températures ne dépassent pas 23 degrés. Mercredi, le ciel en Tchéquie sera nuageux. Les températures diurnes se situeront entre 21 et 25 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède le micro maintenant à Alexi Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague. Merci à Václav pour ce bulletin d'information. Aujourd'hui, dans notre émission que vous écoutez sur satellite ou sur Internet, il y aura au programme le 120e anniversaire du funiculaire de Prague, l'une des principales attractions de la capitale tchèque. Nous parlerons ensuite photographie, avec une exposition dans l'ancien hôtel de ville de la capitale, une exposition qui revient en photo, donc sur la période de la normalisation dans les années 70 et 80 en Tchécoslovaquie. Et puis dans la deuxième partie de ce programme, nous parlerons cinéma avec plusieurs jeunes cinéastes qui viennent en ce moment, qui viennent cet été pour réaliser des courts-métrages ensemble dans la capitale tchèque. La semaine dernière, vous le savez, on en a parlé sur nos ondes, était célébré l'anniversaire des premiers tramways électriques à Prague. Eh bien, Cette semaine, lundi, c'est le funiculaire de Petchin qui fêtait les 120 ans de son inauguration. L'exposition du Royaume de Bohème en 1891 à Prague avait introduit plusieurs nouveautés techniques qui sont devenues par la suite des symboles des transports en commun pragois. C'est le cas, par exemple, du funiculaire qui relie le quartier de Malá Strana avec le sommet de la colline de Petchin, un funiculaire mis en service pour la première fois le 25 juillet 1891. Hanka Niemeczkova pour plus d'infos.
Dans la ville de Prague, on compte trois funiculaires au total. Celui du jardin zoologique à Troja, celui de Smichov qui relie les deux immeubles d'un même hôtel. Mais le plus populaire reste sans nul doute le funiculaire de Petchin. La ligne parcourt une distance de 511 mètres et le nombre de passagers par an est proche de 2 millions. En tout, il a déjà transporté plus de 56 millions de personnes. Croyez-le ou non, c'est la tour Eiffel qui est à l'origine de ce projet, comme l'explique Pavel Foytik, le chef des archives de la Société des transports en commun de Prague.
Za všechno vlastně může klub českých turistů, který byl v roce 1889 na zájezdu v Paříži a tam byl fascinován.
L'initiative vient des membres du club des touristes tchèques, lesquels avaient visité Paris en 1889 et qui avaient été fascinés par la nouvelle Tour Eiffel. Ils se sont donc dit qu'avoir un tel monument à Prague serait une bonne chose et c'est ainsi que l'idée d'une tour sur la colline de Petchin est née. Ce lieu a été choisi car il s'agit de la plus belle vue sur Prague et sur son château, dont cette exposition du Royaume de Bohème en 1891 était une bonne opportunité pour la construction de la tour et du funiculaire qui monterait jusqu'à ses pieds.
Tak to byla ta ideální příležitost jak ke stavbě rozhledny, tak ke stavbě té lanové dráhy.
La construction du funiculaire a été extrêmement rapide. Les travaux furent commencés en février 1891 et à peine 5 mois plus tard, les premiers passagers pouvaient déjà utiliser le nouveau moyen de transport au lieu d'affronter la pente abrupte de Petchin à pied. Cependant, la ligne était un peu plus courte que dans sa version actuelle, 400 mètres et les stations étaient placées différemment. À l'époque, il s'agissait du funiculaire de ce type le plus long de tout l'Empire austro-hongrois. Électrifié tardivement lors de sa reconstruction en 1932, il était auparavant actionné grâce à un système hydraulique. Pavel Foytik précise.
Ten systém spočíval v tom, že v nádrži, která byla pod skříní vozu.
Le système était actionné au moyen de 2 cuves étanches d'eau. À la station haute, la cuve d'une cabine était remplie. L'eau descendait sous l'effet de la gravité avec le poids cumulé des voyageurs et de l'eau, et entraînait ainsi dans la montée la cabine opposée. Ensuite, à la station basse, l'eau de la cuve était à nouveau relâchée et refoulée vers la station supérieure, et ainsi de suite, dans un mouvement circulaire.
Prolongée pour atteindre le sommet de Petchin, la ligne est également électrifiée en 1932 grâce à l'action du SLED, un rassemblement faisant partie du mouvement sportif tchèque Sokol, lequel avait ses quartiers au stade de Strahov, situé non loin de Petchin. Le terrain de Petchin s'est révélé être relativement instable, chose que les ingénieurs ignoraient au moment de la construction. En 1965, il a ainsi fallu suspendre la circulation du funiculaire à cause d'un glissement de terrain qui avait abîmé la voie ferrée. Pavel Foytik raconte.
Ty problémy nastaly až při té druhé, při té elektrifikované lanové dráze.
Les problèmes sont apparus en juin 1965, après une longue période de pluie, quand une cabine s'est mise à tanguer violemment. On a commencé à en déterminer la cause et très vite on s'est aperçu d'une difformité au niveau du milieu de la ligne. La circulation a immédiatement été arrêtée. Pendant les semaines suivantes, le terrain de Petchin a glissé plusieurs fois et ce qui a entraîné de grandes déformations des rails. 2 ans plus tard, une partie de la pente s'est effondrée et a détruit l'ensemble de l'installation.
Après un assainissement minutieux du terrain, le funiculaire a finalement pu rouvrir après 20 longues années en 1985. Il fonctionne désormais sans incident notable et est interrompu chaque année en avril et en septembre pour entretien.
Suite de notre émission en français sur Radio Prague, avec maintenant de la photographie. La galerie de l'ancien hôtel de ville de Prague propose jusqu'au 14 août une exposition intitulée « Les rituels de la normalisation ». Il s'agit de photographies réalisées dans les années 70 et 80 par la photographe tchèque francophone Dana Kindrova. Des photos qui sont également disponibles sous forme de livre. Et c'est Anna Kubishta qui a rencontré Dana Kindrova sur place.
La normalisation, on appelait ça la période qui était après l'entrée de l'armée soviétique chez nous en 68. C'était un peu paradoxal parce que normalisation, ça signifiait que la situation devient normale. Mais pour nous, c'était pas normal. Alors ça durait 20 ans. Ici, j'ai présenté les manifestations communistes. Ce sont les cérémonies comme le 1er mai ou bien la Spartakiade, c'était, comment dirais-je, les...
Un rassemblement de gymnastique.
Gymnastique pour soutenir le pouvoir communiste. Et après, c'est le centre de la vieille ville où avaient lieu les manifestations pour célébrer l'anniversaire de la Grande Révolution, octobre, etc. Et la fin de ce projet, de ce livre, c'est la Révolution de Velours.
Alors simplement, juste pour revenir un petit peu sur ces années grises des années 70, 70-80, donc qui ont précédé la révolution de velours et qui ont succédé à l'invasion par les troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. Justement, on voit toutes ces manifestations. Comment est-ce que vous, par exemple, vous avez pu vous glisser finalement, pas incognito, mais en tout cas photographier sans problème?
Et j'étais beaucoup plus jeune, alors c'est pour ça, ça posait pas de problème parce que je jouais être naïf, une étudiante qui faisait le matériel pour présenter cela à l'école comme ça. Alors et c'était un peu du théâtre que je jouais. Alors et en plus, parce que je suis une femme, alors sur le système communiste, pas seulement ici, mais aussi en Union soviétique, les femmes n'étaient pas dangereuses. Alors ça m'aidait beaucoup.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vous présentez ces rituels très organisés, les manifestations, les spartakiades, etc., qui sont des choses que les gens ont peut-être aussi d'ailleurs oubliées. Mais alors vous montrez aussi des rituels plus quotidiens de la vie des Tchèques, par exemple le bal du baccalauréat, ou par exemple, qu'est-ce que j'ai pu voir encore, la semaine avant les examens du baccalauréat, qui est une semaine... où les étudiants peuvent réviser, en fait.
Parce que si vous présentez seulement les manifs, alors c'est un peu trop. Alors il a fallu de mettre un petit peu du calme. Et ce sont la vie quotidienne qui était grise. Alors j'ai placé là-bas mes photos de ces années. Alors je pense que c'est bien parce que comme ça on voit, ce sont les rituels officiels, les rituels communistes, mais il y a les rituels aussi personnels comme le bac ou bien il y a le Noël aussi. C'était très important chez nous sur le système communiste. Que les gens faisaient des achats, c'était vraiment une fête pour tout le monde, pour manger. C'était pas spirituel, mais c'était vraiment
pour changer le quotidien.
Pour changer le quotidien, parce que comme ça, on était chez soi, alors on était un peu libre.
Justement, il y a plusieurs photos justement qui le rappellent. Il y a par exemple une photo où on a l'impression que les gens cherchent tous à avoir un arbre de Noël. Il y a plein de mains. Les gens essaient de s'arracher les arbres de Noël. Ou alors il y a un marché avec des bananes, chose que a priori on ne trouvait pas dans le quotidien.
Parce que partout on avait des queues. Alors même pour les arbres de Noël, on faisait des queues. Actuellement, c'est bizarre pour nous, mais c'était comme ça. Même pour avoir le papier de toilette, alors on faisait les queues.
Aujourd'hui, tant d'années après, finalement, qu'est-ce que ça suscite en vous comme émotion, comme réaction de revoir toutes ces photos que vous avez faites finalement à l'époque?
Je connais ces photos comme mes enfants, alors ça ne joue pas grand-chose pour moi si je regarde, mais ce qui me plaît quand je vois les gens venir et regarder et exprimer leurs sentiments, c'est très important pour moi. Je vois que mon travail, ça vaut la peine.
Quelles sont les réactions un petit peu des gens, que ce soit alors peut-être les touristes étrangers qui n'ont pas connu cette époque ou des Tchèques?
Il y a pas mal de gens qui ont quitté les Tchèques, qui ont quitté notre République, alors les immigrés. Alors, ils sont ravis de voir tout ça. Il y avait même une fois une dame qui est venue et elle a pleuré. Moi, j'ai dit pourquoi. Elle m'a dit, quand je vois où j'ai laissé ma mère, je suis partie pour les États-Unis et ma mère restait ici. Alors, je vois que c'était terrible. Hein, ça.
C'était Dana Kindrova, la photographe francophone. Vous l'avez entendu au micro d'Anna Kubishta. Et je rappelle que son exposition sur les rituels de la normalisation est à voir jusqu'au 14 août. À l'ancien hôtel de ville de Prague, c'est juste à côté de l'horloge astronomique. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons musique. Prague est-elle une ville de jazz? C'est ce qui peut se lire, en tout cas dans la plupart des guides touristiques sur la capitale tchèque, qui vantent le dynamisme des scènes locales et le talent de ses musiciens. Cette réputation est-elle pour autant justifiée? C'est la question que s'est posée Anne-Claire Veluire pour ce Panorama qui est une rediffusion du mois de mai.
Panorama.
Panorama.
Bienvenue au Jazz Doc, un nouveau club de jazz récemment émergé des eaux de la Vltava, puisqu'il a été construit il y a tout juste 2 ans sur une plateforme posée sur la rivière, au pied du pont Jiráček, du côté du quartier de Smíchov. La vue sur le Théâtre National et sur le centre-ville en général y est imprenable, et comme vous pouvez l'entendre, l'ambiance est plutôt bonne. En attendant le premier des 2 concerts de la soirée, les premiers spectateurs se détendent en sirotant quelques cocktails sur fond de musique jazz. Ce soir, c'est un duo franco-russe, Rue Lascar, basé à Berlin, qui se présente pour la première fois sur une scène pragoise. Pour autant, Matt Deharp, chanteur et guitariste du groupe, n'est pas tout à fait en terrain connu à Prague. Il explique comment il s'est retrouvé invité sur la scène du Jazz Doc.
En fait, ce qui se passe, c'est que bon, déjà d'une part, Berlin, c'est pas très loin, hein, c'est 4 heures de train, 4 heures et demie, quoi. On a aussi une connexion, nous, parce que bon, moi, j'habitais à Prague entre 92 et 95, et j'ai encore quelques vieux amis qui sont encore ici, qui sont de cette époque-là, qui étaient aussi eux des musiciens de rue. Donc, ça a été un petit peu le début de moi, de ma carrière musicale, on va dire. Et on a gardé les liens de loin en loin, donc on vient les voir, et puis on essaye aussi de mettre un peu le pied dans la scène tchèque aussi, puisqu'il y a une très bonne scène musicale ici. Bon, au niveau musical, c'est assez fort. Donc on aime bien se faire entendre aussi dans le quartier, quoi.
D'accord, alors c'était justement là où je voulais en venir. Prague, quand on lit les guides touristiques, est considérée comme une ville de jazz. Est-ce que c'est vraiment votre impression aussi?
Bah, il y a une tradition, hein. C'est évident qu'il y a une tradition du jazz à Prague. Bon, déjà pendant l'époque de la répression, on va dire staliniste, hein. Je vais pas dire communiste parce que ça a jamais été du communisme. Bon, c'est vrai que le jazz et surtout le Dixieland, les choses comme ça, c'était toléré, on va dire, par les autorités. Il y avait aussi, bon, peut-être du fait qu'il y avait pas aussi beaucoup de paroles, c'était surtout de la musique. Donc même si c'était de la musique qui venait d'Outre-Manche, qui venait d'Amérique, il y avait quand même le côté, c'était des peuples réprimés, c'était la musique des Noirs, etc. Donc je crois que peut-être le communisme pouvait s'identifier à ça, le régime pouvait peut-être supporter le fait, les peuples opprimés, je sais pas, hein, moi j'imagine, mais le fait est, c'est vrai qu'il y avait une, il y a toujours eu une scène jazz importante ici depuis les années, je crois, les années 50, donc il y a une tradition du jazz, mais il y a aussi d'autres choses, il y a une très bonne scène de bluegrass par exemple, il y a les scènes de chansonniers, etc. Bon, la République tchèque, c'est quand même, musicalement, en Europe centrale, c'est un endroit assez intéressant.
Alors vous me dites que vous étiez ici au début des années 90, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu dans quelles circonstances, puisque vous faisiez ici à ce moment-là?
Oui, bah, c'est très simple. J'étais à l'université Tolbiac à Paris, dans le 15e. J'avais donc 18 ans, 19 ans à l'époque. Et puis je suis venu à Prague, donc c'était au tout début. Il y avait encore une aura un peu de mystère autour de Prague, parce que c'était genre 2-3 ans après la chute du mur. Il y avait des rumeurs, on disait que c'était une ville assez intéressante, mais il y avait encore beaucoup de gens qui n'osaient pas trop y aller, quoi. Hein. C'était un petit peu quand même, c'était l'Est, hein. C'était bizarre. Et puis je me suis retrouvé ici, je me suis aperçu qu'il y avait une scène assez flamboyante, quoi, on va dire. C'était il y avait vraiment de tout, quoi. Il y avait 2 ou 3 gros squats qui ont été formés par les jeunes tchèques de façon spontanée. Il y avait des bars clandestins, il y avait des théâtres clandestins. Donc au niveau de la, on va dire, la créativité artistique spontanée, c'était absolument optimal, quoi. C'était fantastique parce que il était possible de vivre pratiquement à partir de rien et d'avoir donc libre cours à toute forme de créativité.
Vous qui avez connu donc Prague au début des années 90, vous êtes ici aujourd'hui. J'imagine que c'est pas la première fois que vous revenez à Prague après ce séjour d'il y a quelques années maintenant. Alors quel regard vous avez un peu sur la vie culturelle?
Ouais, au niveau de la vie culturelle, moi j'ai un peu l'impression que c'est comme dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de groupes qui tâchent de faire ce qu'ils peuvent. Maintenant, ce qui se passe, c'est Prague, c'est une ville comme toutes les villes d'Europe qui est sous une pression économique assez forte. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a pour les jeunes musiciens qui commencent à essayer d'établir un peu une une réputation, c'est difficile parce que, mais ça c'est un phénomène européen, hein, c'est un phénomène moderne, c'est que en fait les endroits de taille moyenne, on va dire les endroits pour les groupes qui commencent à vouloir sortir de la rue, vouloir jouer dans des plus gros bars, etc., mais qui n'ont pas encore vraiment l'appui de fortes structures, c'est très difficile pour eux parce qu'il n'y a plus d'endroits de taille moyenne. Les endroits de taille moyenne ne peuvent plus vraiment se supporter eux-mêmes économiquement. Donc d'un côté on a une situation où il y a beaucoup de gens qui font de la musique très intéressante, de l'autre côté ils sont pas vraiment, il n'y a pas les structures pour leur donner leur support.
La vie de musicien n'est donc pas toujours facile. Peter Zelenka est guitariste de jazz. C'est un autodidacte dont le nom figure néanmoins parmi les plus reconnus des guitaristes de jazz actuels en République tchèque. Il enseigne également au conservatoire à Jaroslav Ježek et il raconte son parcours avec notamment une étape par la capitale française pendant quelques années.
Il y a 15 ans, quand je suis arrivé à Prague, ça bougeait d'une autre manière, à mon avis. Il y avait plus de jam sessions, on jouait un autre type de jazz qu'aujourd'hui, on jouait plutôt du jazz traditionnel, du bebop, donc on était dans cette ambiance de revivre les années 60, les années 50 aux États-Unis, mais c'était un petit peu comme un rêve qui durait pas longtemps bien sûr, parce que c'était pas la réalité, mais quand même ça donnait une possibilité de faire un travail sur scène, d'apprendre beaucoup sur scène, comme ça se faisait justement dans les années 50. Donc, au lieu de faire une école, j'ai travaillé à la maison, j'ai fait des transcriptions, des solos, et puis j'ai joué sur la scène avec de bons musiciens, et c'est comme ça que j'ai appris le langage de jazz.
Alors aujourd'hui, quel type de jazz vous jouez, quel type de musique? Parce que le jazz, c'est forcément très large.
Bien sûr, au cours des années, j'ai essayé de trouver ma propre voix. J'ai commencé à composer. Je ne me contentais plus à jouer des standards. Donc j'ai commencé à composer déjà sur mon premier album. En 2000, il y a deux compositions à moi. Mais après, j'ai commencé à composer plus et maintenant, je ne joue plus que mes propres compositions. J'ai pris des inspirations au cours des années d'autres traditions musicales. Justement, quand j'ai vécu à Paris, j'ai pu me confronter à la musique indienne, à des concerts au théâtre de la ville, par exemple, à des petits concerts de musique arabe. J'ai pu emprunter beaucoup de CD à des bibliothèques, à des médiathèques en France, qui ne sont pas disponibles ici, par exemple. Aussi, j'ai des amis qui ont étudié à l'étranger, comme Wojciech Prochaska, qui étudie maintenant en Norvège. Donc, tous ces musiciens tchèques qui font des études à l'étranger, ils apportent beaucoup d'autres traditions musicales en Tchéquie. Et donc, la scène de jazz tchèque évolue comme ça assez rapidement. Ces dernières deux années, je vois vraiment un saut incroyable. On commence à avoir notre propre jazz à nous, je peux dire.
Donc vous êtes parti à Paris il y a quelques années, vous avez vécu quelques années, vous étiez à la recherche de nouvelles inspirations. Vous me dites que vous en avez trouvé un petit peu. Paris est une ville qui a une réputation d'être une grande ville de jazz, même peut-être la capitale du jazz pendant l'entre-deux-guerres. Ou est-ce que vous avez trouvé cette réputation vérifiée? Est-ce que vous avez vérifié cette réputation? Est-ce que vous avez trouvé que c'était justifié? Est-ce que vous avez trouvé assez de choses intéressantes pour vous?
Oui, bien sûr. Il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu aussi des déceptions. Maintenant, je regrette un peu que je n'ai pas assez exploré la scène de musique improvisée à Paris, qui est assez grande. Mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas tellement, malheureusement. Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'étais toujours un peu dans le courant bebop. Je suis allé aux jam sessions, je ne connaissais personne. Les musiciens que j'ai connus, ça ne m'impressionnait pas tellement. Enfin, il y en avait quelques-uns de très très bons, mais j'avais du mal à trouver quelque chose qui m'intéresse vraiment.
Prague, aujourd'hui, comment vous voyez la ville? On peut lire souvent dans les guides touristiques en français sur la capitale tchèque, que c'est une des capitales du jazz européen, que la scène jazz est très vivante. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est justifié?
Justement, en partie, je trouve que c'est vrai, parce que surtout ces deux, trois dernières années, ou même plus, mais là, ça commence vraiment à être plus marquant. Ces deux dernières années, ça a quelque chose de particulier, typique pour notre scène. Donc c'est la capitale de jazz tchèque, ça c'est sûr. La capitale de jazz européenne, je sais pas trop dire. C'est pas si grand comme Paris, par exemple. C'est pas comparable. Paris est plus grand, il y a plus de musiciens, plus de traditions. Mais oui, il y a une petite scène très importante et ça vaut l'explorer.
Une des preuves du dynamisme de la capitale tchèque dans ce domaine reste le nombre de clubs de jazz assez élevé par rapport à la taille de la ville, comme le fait remarquer le patron du Jazz Doc, Vladimir Lederer.
Je pense que la scène jazz tchèque est très riche, pleine de gens de valeur. Je ne peux pas dire pourquoi c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas tant d'auditeurs de jazz que cela, même si notre expérience au Jazz Doc montre que les Tchèques viennent écouter la musique. Avant, il semblait que s'il n'y avait pas de touristes, personne ne venait dans ces clubs de jazz. Notre scène de jazz est très riche, avec des musiciens des générations précédentes qui jouent depuis 40 ans, mais qui jouent toujours bien, et la jeune génération qui étudie dans différents conservatoires et à l'étranger, et qui fonde de nombreux groupes. Je pense qu'il y a peut-être 200 musiciens qui ont un niveau professionnel, et c'est beaucoup. Et même si cela peut surprendre, Prague appartient en métropole du jazz, notamment quand on voit le nombre de clubs qui sont au nombre de 10 environ, même en comparant avec des villes comme Amsterdam ou même Londres. Ces clubs ne sont pas tous bons, mais tout de même, cette musique est jouée régulièrement, ce qui me paraît quelque chose d'énorme pour notre époque.
Effectivement, le Jazz Doc a réussi ce bel exploit d'attirer un public local qu'il fidélise avec des groupes de la scène nationale, mais aussi avec des grands noms du jazz international. Pour autant, Vladimir Lederer ne craint pas de voir d'autres clubs suivre son modèle.
Non, je suis naopak rád, parce que...
J'en serais au contraire très heureux. Je soutiens tout ce qui profite au jazz. Ainsi, un nouveau club s'est ouvert il y a quelques mois. Il s'appelle Jazz République et se trouve dans un endroit intéressant dans le métro de Prague. C'est un espace magnifique et aménagé de façon moderne. Et je pense que c'est bien parce que si quelqu'un écoute de la bonne musique quelque part, il aura ensuite envie de venir l'écouter chez nous ou le contraire. Et c'est mieux que d'avoir un monopole. Donc, je n'ai rien contre ça.
L'offre pour les amateurs de jazz à Prague est donc plutôt riche. Pour preuve, sachez ainsi que dans les semaines qui viennent, on pourra entendre à Prague, par exemple, le guitariste-bassiste Charlie Hunter au Jazz Doc, mais aussi le saxophoniste Maceo Parker au Luzerna Music Bar dans le cadre du festival de jazz Agartha, ou encore le grand Chick Corea au Palais des Congrès.
Et voilà, c'était le Jazz à Prague, un panorama signé Anne-Claire Veluire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et de votre attention. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz. Alexis Rosenzweig au micro. Au revoir. Nasrele Dano.